Nous allons lire deux textes dans l'Épître aux Hébreux. Le premier, c'est au chapitre 5, les versets 7 à 9. Voici ce que l'auteur de l'Épître dit en ce qui concerne Jésus. En effet, je ne suis pas à la bonne page, excusez-moi. Au cours de sa vie sur la terre, je lis la parole vivante, hein, la version parole vivante. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est ainsi qu'il a atteint le plein haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Et le deuxième texte se trouve au chapitre 11 de la même épître aux Hébreux, au chapitre 11, versets 24 à 26. Poussé par cette même foi, Moïse lui-même, une fois devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de partager les souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir pour bien peu de temps des joies et des avantages d'une vie dans le péché. Subir le mépris et les outrages comme le Messie lui paraissait un bien plus précieux que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il avait les yeux fixés au loin sur la rétribution finale. Amen. En lisant les évangiles, nous voyons Jésus qui a pris le soin d'avertir ses disciples de tout ce qui allait lui arriver. Jésus a pris le soin d'annoncer à ses disciples sa mort prochaine. Mais les souffrances de Jésus n'ont pas commencé uniquement à la croix. Quand nous lisons les évangiles et au regard de tout ce qu'il est venu accomplir en obéissant à son Père, lorsque nous considérons de près la vie de Jésus, nous remarquons un fait indéniable. C'est qu'il a donné librement sa vie. C'était une vie libre, librement choisie pour accomplir la volonté de Dieu. Il le dira lui-même à ses disciples dans l'évangile de Jean. Il dira, voilà, j'ai donné ma vie et personne ne peut me l'ôter. Il a donné volontairement sa vie pour montrer véritablement que ce qu'il devait subir n'était pas le fait d'un hasard. Bien que, les souffrances, il reconnaissait les souffrances qui s'en suivaient, Jésus n'a pas renoncé à accomplir parfaitement la volonté du Père. Vous savez, quand on regarde le temps où Jésus est venu sur la terre, jusqu'au moment où il a livré sa vie, nous réalisons quand même que toutes ses souffrances, tout ce qu'il a enduré, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, toutes ces choses-là faisaient partie intégrante de la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. Il est question ce matin des souffrances de Christ. Quelles peuvent être les conséquences et l'impact des souffrances de Jésus sur la vie du croyant? Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, pour montrer la grandeur du ministère accompli par Jésus sur la terre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le présente comme celui qui a accepté volontairement d'obéir à la volonté de son Père, tout en sachant que cette obéissance le conduirait à la souffrance et à la mort. Quand il parle des cris et des larmes que Jésus a versées, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous conduit tout droit au jardin de Gethsémané. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 27, nous voyons véritablement les derniers instants de la vie de Jésus, où il va être en face de cette douloureuse épreuve parce que tout le poids de l'humanité reposait sur lui. Et l'auteur nous met en face du douloureux mystère et insondable mystère de l'agonie de notre Seigneur. Et le passage à Gethsémané a été la dernière étape sur le chemin de la perfection. Vous savez, s'il n'y avait pas eu cette étape-là, Jésus n'aurait pas pu accomplir son œuvre de rédemption. Il a fallu véritablement qu'il aille jusqu'au bout, qu'il obéisse jusqu'au bout pour que nous soyons sauvés. Vous savez, c'est la perfection absolue dans l'obéissance qui est l'essence même du salut de l'humanité. L'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Philippiens, nous parle de cette obéissance au chapitre 2, les versets 5 à 8. Et c'est parce que le Christ a été toujours obéissant qu'il a pu livrer sa vie à la place de ceux qui étaient coupables. Nous étions coupables. Nous ne méritions pas la grâce de Dieu. Mais il a manifesté une puissance salvatrice et nous pouvons réaliser quand même qu'il y a une puissance salvatrice dans les souffrances de Christ. Pierre dira ceci dans sa première épître au chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Il a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Au regard de ce passage, nous voyons Pierre qui montre trois aspects dans la souffrance qui a conduit au salut. De vous à moi, nous savons bien que Christ n'avait pas à souffrir parce que la parole de Dieu nous dit qu'il était sans péché. La croix était réservée à ceux qui avaient offensé. Mais lui n'avait commis aucune offense. Le Christ était juste. Il était parfait et il n'avait pas à souffrir. Mais Pierre donne quand même la raison de la souffrance, des souffrances de Christ. Et puisque nous sommes dans la semaine qui précède sa vie livrée à la croix, nous pouvons nous arrêter un instant et réaliser à nouveau la raison pour laquelle le Christ a livré sa vie. Il dira à l'apôtre Pierre, il a souffert une fois pour les péchés. Mais de qui ? Ce n'était pas de lui. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Il ne pouvait y avoir en lui aucun péché. Et s'il a souffert, c'était pour moi et pour vous. C'était pour l'humanité. Mais les hommes de son époque, malheureusement, n'ont pas compris ce que Jésus était en train d'accomplir. Déjà quand il est venu sur la terre, les souffrances de Christ ont commencé Lorsque ceux qui étaient censés le connaître et savoir ce qu'il était venu faire sur la terre l'ont rejeté. L'apôtre Jean, quand il parle de la venue de Jésus au chapitre 1er, il dit, voilà, elle est la lumière en parlant de Christ. Elle est venue chez les siens, mais les siens l'ont rejetée. Quelle souffrance, hein? Je ne sais pas vous, mais être rejeté par ceux que nous aimons, c'est quelque chose de terrible. Être rejeté par ceux qui étaient censés nous comprendre, c'est quelque chose de terrible. Peut-être que quelqu'un dans sa vie a été rejeté. Mais sachez que celui qui a été rejeté comprend et connaît la souffrance peut-être que vous vivez. Et il est capable de vous consoler dans votre souffrance. Il a été abandonné. Et l'apôtre Pierre montre, voilà, la raison. Il a donné sa vie pour les péchés. Et il montre encore l'autre aspect. Il a livré sa vie, les bénéficiaires. Il dira, lui juste pour des injustes. C'était vous et moi, frères et sœurs. C'était l'humanité tout entière. Le Christ, lui juste, n'était pas obligé d'accepter d'être cloué à la croix. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de Jésus, il parle de cette obéissance qu'il a conduit, il a obéi parfaitement à la volonté de Dieu, le Père. La raison, c'est les péchés de l'humanité. Les bénéficiaires, c'est vous et moi, injustes que nous étions, coupables que nous étions, et encore les injustes d'aujourd'hui et les coupables d'aujourd'hui. Mais ce qu'il y a encore de plus merveilleux, c'est que Pierre nous présente la valeur inestimable de ce sacrifice. Il dira, il a offert sa vie une fois. Une fois. Souvenons-nous, pour ceux qui connaissent la parole, avec le peuple d'Israël, les sacrifices devaient être permanents. C'était continuel. À chaque instant, un sacrifice devait être offert. Mais le sacrifice de Jésus est venu montrer réellement l'imperfection des sacrifices que le peuple était amené à faire. Une fois pour toutes, Jésus a souffert pour nous. Quelle grâce, hein? C'est la raison pour laquelle, au chapitre 4, l'auteur dira, voilà, puisque nous avons un si grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, approchons-nous du trône de la grâce. Autrefois, les Israélites devaient passer à chaque instant par le souverain sacrificateur pour entrer dans la présence de Dieu. C'était par un homme. Mais nous réalisons la grâce que nous avons aujourd'hui au regard du sacrifice parfait de Jésus. Nous n'avons plus à passer par un homme. Le chemin nous a été frayé parce que Jésus a souffert une fois pour toutes pour nous. Quelle réaction devons-nous avoir face aux souffrances de Christ? Vous savez, lorsque Jésus parlait de ses souffrances aux disciples, ils ne comprenaient pas. D'autant que Pierre, quand Jésus va dire quelque chose devait lui arriver, Pierre dira, cela ne t'arrivera point. Il ne comprenait pas l'apôtre. Peut-être qu'il n'était pas le seul à ne pas comprendre le cheminement par lequel le Christ devait passer. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous a éclairés. Et en lisant les Écritures, nous savons que véritablement, il fallait que Christ passe par là, par ce cheminement-là. Il dira, l'auteur de l'épître aux Hébreux, voilà, il est passé par l'école de la souffrance. Ouf! On aimerait apprendre beaucoup de choses, mais cette école-là, combien sont prêts à accepter de passer par cette école? L'école de la souffrance. On accède à des écoles pour avoir des diplômes. Et nous voyons dans notre société des écoles prestigieuses où il faut débourser, oh là là, des sommes extravagantes parfois pour y accéder. Et ce n'est pas n'importe qui peut y aller. Hein. Je n'aurais pas pu aller, je ne sais pas quelle école prestigieuse ici en France, je ne sais pas, mais... Lequel ? L'ENA, ah. Je n'aurais pas eu la capacité d'y accéder. Mon intelligence ne m'aurait pas permis d'accéder à cette école. Mais vous savez, il y a une école que tout un chacun, qui que nous soyons, nous avons accès. Pour nous permettre réellement d'être de ceux que le Seigneur désire que nous soyons. Parce qu'en passant par l'école de la souffrance, il en ressort quoi? Quelqu'un, quelqu'une, à la gloire du Seigneur. Quand l'apôtre Paul parle de l'obéissance de Christ, il dira, voilà, Philippiens chapitre 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, voilà, il a obéi. » Et il dira, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il est passé par cette école-là. C'est parce qu'il a accepté volontairement de se soumettre à ce que Dieu lui voulait. Et Jésus savait véritablement voilà, que l'obéissance allait lui coûter la vie. Il faut réaliser quand même que ce que le Christ a accompli à la croix n'est pas quelque chose à minimiser. Les souffrances de Jésus, du début jusqu'à la fin, sont tout un panel de leçons pour l'Église de Christ. Alors, quelles sont les réactions que nous devons avoir face aux souffrances de Christ? Regardez ce que l'apôtre Pierre dit au chapitre 4, les versets 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, lisez avec moi. Christ ayant souffert dans la chair, allez, non, la suite. Vous aussi, c'est de qui? Vous aussi. L'apôtre Pierre dira, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous. Armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Verset suivant, s'il te plaît. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Même s'il s'adressait à ses contemporains, il s'adresse par voie de conséquence à l'Église de Jésus, à nous qui sommes là ce matin, à nous qui avons accepté véritablement que celui qui a livré sa vie fasse partie intégrante de notre vie. Il dira à l'apôtre Pierre, « Vous aussi, armez-vous !» En montrant réellement que le cheminement par lequel Christ est passé devrait être notre quotidien. Ça devrait être mon quotidien à moi. L'apôtre Pierre nous amène véritablement à réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois communier aux souffrances de Christ. Non pas que je dois faire ce que le Christ a fait à la croix. Il faut quand même réaliser que l'apôtre Pierre ne nous appelle pas à monter sur la croix. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Mais il nous montre véritablement que les souffrances en tant qu'enfant de Dieu sont inévitables. Vous savez, humainement, nous sommes prêts à tout pour éviter toute souffrance et parfois même pour le Christ. Humainement, je dis, nous sommes prêts à éviter toute souffrance même pour le Christ. Mais Pierre nous exhorte à la lumière des souffrances, à notre faveur, à vivre pour Dieu dans la ressemblance de Christ, dans ses souffrances. C'est pour cela, ça nous conduit tout droit au deuxième, à la deuxième lecture que nous avons faite dans cette même épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 24. Que dira l'auteur de l'épître aux Hébreux en ce qui concerne Moïse? Il dira ceci: par la foi, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset suivant. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ, ses souffrances, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'auteur compare ici le chemin parcouru par Moïse, libérateur du peuple et médiateur de la première alliance, au chemin parcouru par Christ. Il dit, voilà Moïse, voilà ce que Moïse a fait. Et par la foi, il regardait les souffrances de Christ comme un trésor, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et pourtant, à l'époque de Moïse, c'était pas rien d'être fils de la fille de Pharaon. C'était pas rien. Parce que l'Égypte était considérée comme une puissance, une richesse. Lorsqu'il y a eu les temps difficiles en Israël, où sont allés les Israélites? Où sont-ils allés? En Égypte. Pourquoi? Pourquoi sont-ils allés en Égypte et pas ailleurs? Pourquoi? Vous murmurez, je ne vous entends pas. Pour manger. Pour manger. Parce qu'il y avait de l'abondance en Égypte. Ce n'était pas un pays désert. Il y avait de l'abondance. Et être fils de la fille de Pharaon, c'était un privilège. Mais il nous dit par la foi, Moïse va regarder les souffrances de Christ comme une richesse plus grande. Vous savez, si Moïse et Jésus ont vécu à des époques différentes, c'est la foi en Jésus qui l'a poussé à regarder aux valeurs éternelles sans prendre en compte les avantages temporaires. Moïse a considéré quand même que ces avantages temporaires pouvaient l'aveugler quant à la gloire à venir. Ça ne nous dit rien, frères et sœurs, nous qui vivons dans ce monde aujourd'hui. Ça ne nous dit rien. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Nous sommes dans un monde où, voilà, aujourd'hui, tout est centré sur les richesses que nous voyons, sur les biens matériels. Et malheureusement, ces choses ont gagné petit à petit l'Église de Jésus. Beaucoup de chrétiens se sont laissés aveugler par le matériel. Je ne dis pas qu'il faut tout balancer. Vous savez, autrefois, c'est ce qu'on disait. Tu as la foi, donc tu n'as besoin de rien. Ça, c'est l'extrême. Il faut faire attention. Ça, c'est l'extrême. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je dois vivre comme un malheureux. Ça n'a rien à voir. Mais l'autre extrême, c'est de vivre comme le monde. Alors que Moïse aurait pu véritablement se concentrer sur les richesses qu'il avait. C'est la foi en Jésus. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'était quoi cette rémunération? Quand nous lisons ce qui est dit, il voulait voir et vivre avec celui qui est l'invisible. Voilà la véritable richesse, hein? Vivre avec Jésus, le voir face à face, voilà la plus grande richesse. Vous savez, c'est le péché a causé la rupture de relation avec Dieu et il nous a privés de toutes les bénédictions. Et la vie en Jésus et ses souffrances nous ont replongés dans cette réalité de bénédiction. L'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Éphésiens, il dira « Béni soit Dieu, le Père, qui nous a bénis en Jésus de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Chose que nous n'avions pas, puisque au chapitre 2, le même apôtre, il dira, en s'adressant à ses contemporains, « À cause du péché, vous étiez sans Christ, sans Dieu, sans espérance, vous étiez privés de toutes les bénédictions. » Mais gloire soit rendue à Dieu. Les bénédictions que Jésus nous redonne, même si humainement nous pouvons jouir de la grâce de Dieu sur la terre, nous réalisons que la plus grande richesse, ce n'est pas ce que nous pouvons recevoir de lui ici-bas. La plus grande richesse, c'est de vivre avec lui. Parce qu'il nous a fait cette promesse, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. L'apôtre Paul, alors qu'il s'adresse aux Colossiens, en parlant de son combat pour l'Église, il dira ceci, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » L'apôtre n'est pas en train de dire que ce que Christ a fait, il manquait quelque chose à ce que Christ a fait, ce n'est pas ce qu'il dit. Parce que quand il dit ce qui manque aux souffrances de Christ, ce ne sont pas les souffrances de la croix. Mais l'apôtre, il parle véritablement des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, à la prédication de l'Évangile, chose que nous aussi, nous sommes amenés à vivre. Parce que, voilà, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à témoigner chacun pour notre part. Et nous sommes, en lisant la parole, nous sommes conscients que le témoignage avec le témoignage s'en suivra aussi des souffrances. Il dira le Seigneur, ils m'ont haï, ils vous haïront également. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Et la vie de Paul, lorsqu'il n'a pas été rose, alors qu'il prêchait l'évangile, Paul s'est confronté, il a eu des difficultés. Quand il s'adresse aux Corinthiens, il montre toutes les souffrances qu'il a endurées, les coups qu'il a subis. Il a été mis en prison. Il est passé tout près de la mort à cause de l'évangile. C'est de ça dont il parle l'apôtre Paul. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, comme Moïse, comme Paul, à faire des sacrifices maintenant pour recevoir une plus grande récompense plus tard? En repensant à tout ce que Moïse a vécu, vous savez, il a renoncé à la convoitise de la chair. Il est dit, voilà, pour un temps, la jouissance du péché. Il a renoncé à ça. Il a renoncé à la convoitise des yeux. Il regardait l'opprobre de Christ, les souffrances de Christ comme un trésor plus grand, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Mais aussi, il a renoncé à l'orgueil de la vie. Il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Quand nous lisons l'apôtre Jean dans son épître, il parle de toutes ces convoitises-là qui sont un frein dans notre marche avec le Seigneur. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà ce que Moïse, par la foi, a renoncé. Je termine avec ceci. Vous savez, en tant que corps du Christ, nous sommes appelés à vivre dans le Christ et contribuer à l'avancement de son royaume par notre témoignage malgré les souffrances. Paul dira ceci dans son épître, aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5. Il montre encore là que les souffrances endurées par l'Église sont l'extension de celles du Christ. En conclusion, nous sommes dans cette semaine qui a précédé le sacrifice de Jésus à la croix. Bien que nos yeux sont rivés sur la croix et que la croix doit rester plantée dans notre cœur, nous devons tout de même nous rappeler le cheminement par lequel Christ est passé pour arriver jusqu'à la croix. Je le répète, rejeté par les siens, abandonné. Lisons, c'est le prophète Ésaïe, quand il parle du Messie souffrant au chapitre 53. Il nous montre ces choses-là. Il nous montre qu'avant d'arriver à la croix, Christ, je ne sais pas si tu peux juste mettre le chapitre 53, verset 3 à 7, s'il te plaît. Je termine juste avec ça. Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. L'apôtre, le prophète parle de tout ce que le Christ a enduré jusqu'à la croix. Méprisé et abandonné des hommes, rejeté par les siens, tout ce qu'il a subi. Et en lisant, je vous encourage à relire Matthieu 27 où il parle des souffrances, les coups reçus, les mains percées, la couronne d'épines, la barbe arrachée. C'est terrible, hein? Mais il fallait que le Christ aille jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il nous a dit, c'est par la foi que Moïse a refusé toutes les convoitises qui auraient pu l'empêcher parce que ses yeux étaient fixés sur la rétribution finale, le fait de pouvoir vivre pour toujours avec Jésus dans le ciel. Si la foi a permis à Moïse de vivre cette vie mise à part pour Dieu, qu'en est-il de nous, étant sous la grâce? Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions véritablement réaliser que l'œuvre de Christ, bien qu'elle soit réalisée il y a plus de 2000 ans, elle est toujours d'actualité. Et nous nous devons, en tant qu'Église de Christ, de vivre une vie pleinement ancrée dans le Seigneur, vivre dans le Seigneur pour que notre témoignage puisse être à la gloire de Dieu, afin que ceux qui nous vivent, ceux qui nous voient vivre, soient touchés et soient désireux de vivre cette vie-là avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous pouvons véritablement réaliser que dans nos souffrances, le Seigneur nous console. 2 Corinthiens 1, 5. Oui, le Seigneur nous console dans nos souffrances parce qu'il a souffert et il comprend les souffrances par lesquelles nous passons. Que son nom soit béni. Amen. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Au regard de ta fidélité et de ton amour, au regard de tout ce que tu as accompli à la croix pour nous, nous réalisons véritablement, comme le dira Paul, que tu n'as pas regardé comme une poire arrachée à te faire égal à Dieu, mais tu t'es humilié en allant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, tes souffrances sont source de salut. Et si nous souffrons aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons tout de même avoir nos yeux fixés sur toi, parce que tu en as payé le prix. Et tu es capable, Seigneur, de nous consoler, de nous encourager et de nous amener véritablement à vivre cette vie de mise à part, Seigneur. Parce que oui, nous sommes dans des temps difficiles, alors que notre monde est tellement envahi de toutes sortes de convoitises, Seigneur. Nous voulons être à l'image, à l'exemple de cet homme Moïse, Seigneur. Bien qu'imparfait, la foi l'a amené à avoir les yeux fixés sur toi et à renoncer à toutes ces convoitises, dans le seul but, Seigneur, de te voir un jour. Seigneur, notre désir également, c'est de renoncer à toutes ces choses-là. Et si quelqu'un, Seigneur, au milieu de nous, s'est laissé plonger dans ces traverses, Seigneur, fait, oui, tu es l'auteur d'un salut éternel. Oh, combien nous voulons nous réjouir, combien nous voulons demeurer en toi, Seigneur, à la pensée de savoir que nous vivrons pour toujours avec toi. Bénis ton Église encore et fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Amen.